Donc, nous demandons à notre collègue François Massé, qu'on ne présente plus de toute façon, donc et qui a encore accepté de venir parler après une très brillante prestation au colloque de juin. Et nous allons aujourd'hui avoir une. Là encore, nous avons, comme vous le voyez, nous avons de loin en loin des communications qui vont se répondre. Dieux ou démons, ou comment absorber la mauvaise part des dieux au Japon. Et. Qui se prolongera demain soir dans la dernière communication de Bernard Faure, la part d'ombre du bouddhisme, dieux et démons du Japon médiéval. C'est en quelque sorte un duo dont nous voyons ici la première intervention et demain, ce qui permettra peut-être de finir à 7 heures et le duo se fera cette invité.
Merci beaucoup. Non pas pour la présentation, mais de me donner l'occasion de parler à cette occasion. J'espère que je vais tenir le temps. Et pour éviter de déraper, je vais lire le plus vite possible, mais pas trop, parce qu'autrement, je vais mélanger ma langue. Donc, vous avez normalement reçu un exemplaire des citations. Merci. Le dossier intitulé Les diverses sortes d'êtres surnaturels redoutables fut présenté par Bernard Franck dans son séminaire de l'EPHE en 1970, alors que je n'avais même pas commencé à apprendre le Aiyueo du japonais. Je ne m'aventurerai pas donc aujourd'hui dans le redoutable labyrinthe des entités bouddhiques. Je pense que Bernard Faure le fera demain. Dans ce cours de 1970-1971, repris dans le volume « Démons et jardins », le dossier sur les diverses sortes d'êtres surnaturels est d'une extraordinaire richesse. Toutes les références sont là. Depuis, aucun nouveau document n'est apparu, aucun nouveau de dieu ou démon ne s'est manifesté après être resté caché 1300 ans. Bernard Franck a bien montré les contours flous des êtres surnaturels dans le Japon archaïque et probablement plus tard. Dieu déclenchant des calamités, mauvais dieu, démon, être sans contour établi, défunt, dangereux, défunt. On pourrait même continuer avec âme sauvage ou rude. Ce sera mon point de départ pour essayer de saisir cet étrange monde surnaturel du Japon archaïque. Suivant la coutume des anciens savants chinois et japonais, cet exposé sera une sorte de commentaire et illustration du dossier de Bernard Franck. Non seulement il y a des dieux mauvais, c'est-à-dire qu'on ne peut rien attendre de bon de leur part, mais aussi des aspects terrifiants chez la plupart des dieux. Je pense que la même ambiguïté est valable pour les défunts et au final pour les hommes. L'opposition bon-mauvais ne recouvre pas des catégories tranchées, comme celle de Dieu et démon, par exemple. Le mauvais se confond souvent avec le sale, la souillure. Toutefois, il n'existe des dieux plutôt bons, d'autres franchement mauvais. Et il est plus difficile de décider si l'on peut dire la même chose pour ceux qui ne seraient pas des entités divines. Ici se pose la question de la définition, ou plutôt de l'étendue que recouvre le vocable kami, avec comme question connexe la question de la lecture de kami des sinogrammes shun ou gui. Faute de temps, je laisserai de côté cette question. Disons rapidement que dans les premiers textes, le gui, donc oni, qui, le futur oni, est souvent synonyme de kami, surtout quand il s'agit de mauvais dieux. Nous en verrons au moins un exemple. Mon champ sera encore plus étroit que je ne l'annonçais et surtout que celui qu'embrassait Bernard Franck. Aujourd'hui, je me suis imposé comme limite chronologique les premiers textes japonais qui renvoient à la réalité sociale du 7e et 8e siècle. Qu'il soit clair, ces textes ne révèlent rien de primitif ou de primordial. Les dieux ont déjà une longue histoire. Ils ont été confrontés à la culture chinoise, celle des lettrés qui nous les ont fait connaître. Nous les saisissons à travers une écriture, une vision de l'histoire, une rhétorique qui est en très grande partie chinoise. De plus, le taoïsme et le bouddhisme sont déjà très présents au Japon au moment de la rédaction de nos textes, nos principales sources, donc le Kojiki 712, Nihonshoki 720, mais ça vous connaissez sur le bout des doigts, j'abrège. Je construis mon exposé autour de trois thèmes, à la Burukami, à la Kinomiya, Susanoo, pour terminer, si le temps me le permet, sur quelques considérations sur Alamitama. À la Burukami. Le japonais archaïque employait de nombreux vocables pour cerner les divers aspects du mal. D'abord la couleur, kulaki, ce qui est noir, kitanaki, ce qui est sale, ashiki, ce qui est mauvais, kegashi, ce qui souffre, ce qui souille, kegale, la souillure, wazawai, le waza dont on a parlé tout à l'instant, les calamités, et yami, les maladies, shi, la mort, et tsumi, un des mots les plus difficiles à traduire, pour le moment je dis les mots, enfin, M-A-U-X. Nous rencontrons la plupart de ces termes au cours de, en cours de route. Cependant, je commencerai par une autre famille de mots construite à partir de la racine ala. Alaki, donc le terrain désolé, mais aussi le temple funéraire, enfin, est une installation funéraire. Alatae, l'étoffe grossière. Alako, la vannerie grossière. Alamitama, l'âme rude ou l'âme violente. Et Alabuyukami, les dieux sauvages, comme l'a si bien traduit Werner Franck. En examinant ce que nous disent les textes de ces dieux sauvages, je souhaiterais faire apparaître une sorte de théologie implicite des premiers récits. Le pays du milieu de la plaine des roseaux a été créé par les dieux. Il est peuplé de dieux et néanmoins il est inhabitable par les hommes. Il est sauvage. Les dieux et les autres êtres qui le peuplent sont sauvages, c'est-à-dire sans règles, sans limites, chaotiques, d'une vitalité explosive. Ces dieux sont désignés de façon générique comme des dieux des montagnes, des rivières. On mentionne dans la même phrase ces dieux des montagnes, des rivières et les arbres, les pierres et les arbres, les pierres et les herbes qui parlent. C'est une nature à l'état brut qui apparaît sans rien de bucolique. Nous sommes loin du chant des nymphes, mais nous sommes très loin aussi de la nature idyllique de la préface du Kokinshu. Le premier texte que vous avez entre les mains, donc une version du Nonshoki, je vous la donne, là, je l'ai dit cette fois-ci. Ce pays du milieu de la plaine de roseaux était sauvage depuis l'origine jusqu'aux pierres et herbes, arbres qui étaient tous en extrême violence. Cependant, je les ai brisés et soumis, et il n'y en a plus qui soient insoumis. L'important ici, c'est que celui qui parle, c'est Onamuchi. Donc on est habitué à avoir cette description dans la bouche des gens qui sont dans la plaine céleste. Et d'autre part, il dit ce pays de plaine sauvage était, ce pays était sauvage depuis l'origine. La pacification donc, commence par ce Onamuchi, alias Okuninushi. Et bien sûr, elle est loin d'être achevée. Avant d'envoyer le petit-fils céleste, l'ordre ne règne pas encore, et vous avez le texte 2 qui est un peu différent, et c'est pour ça que je dois presque oublier de le lire. Cependant, dans ce pays, nombreux étaient les dieux qui étincelaient comme des feux de luciole, des dieux mauvais qui bourdonnaient comme des mouches. De plus, les arbres pouvaient tous parler. Le souvenir de cet état de choses se retrouve dans de nombreux textes, comme dans l'éloge d'Unitaire du Zumo ou dans le passage du Fudoki. Et là, je crois que vous pouvez lire vous-même, je vais passer. La confusion donc, qui règne dans ce pays est illustrée par une sorte de cacophonie généralisée. Les dieux bourdonnent comme des mouches. Le moindre caillou, la plus petite herbe sont doués de paroles. On ne peut plus s'entendre. On subit le même désordre, le plan visuel. Les lucioles qui scintillent n'ont rien de romantique. Elles ont plutôt à rapprocher des inquiétants feux follets. Après la remise en ordre de ce... que ce soit celle de Okuninushi ou Onamuchi, ou bien celle des envoyés des dieux célestes, ce sont des dieux indistincts. Ces dieux donc, qui règnent sur la plaine de roseaux, ils forment une sorte de brouillard de dieux. Leur sauvagerie est synonyme de méchanceté. Le terme Ashikigami est associé à Alaburuka. Ashiki est noté avec le caractère aku, donc mauvais, ou bien avec le caractère ja, donc pervers. Après la descente sur terre du petit-fils céleste, le processus continue, ce processus de pacification. Le premier empereur humain, Jimmu, doit encore affronter des kami insoumis. Et là, vous avez le texte 5 avec la mention de ces Alabulu kami qui sévissent encore dans la montagne de Kumano. Ailleurs, et notamment dans les Fudoki, on rencontre toujours ces mêmes dieux. Ce sont des dieux méchants. Ils tuent les passants. Enfin, je pense que c'est plutôt un acte de méchanceté. Par exemple, donc, le texte 6, autrefois il y avait un dieu sauvage. Il tuait la moitié des gens qui passaient. C'est pas la peine, le reste, c'est une justification du nom de Dieu. De façon plus générale, comme le montre le Fudoki, chaque terroir doit se constituer contre les dieux du lieu. Ces dieux qu'il faut soumettre, repousser. On fixe des limites en réservant le domaine du dieu, la montagne, et celui des hommes, la rizière. À la frontière, on construit un sanctuaire, on institue un rite, on peut dire qu'on fixe le dieu. Le texte suivant de le Fudoki de Hitachi est très connu. Simplement, je vous donne la parole du héros, donc Matachi, qui dit au dieu, il s'adresse au dieu après les avoir poursuivis à coup d'épée, non, de lance. Je vous le fais savoir, à partir d'ici vers le haut, c'est la terre des dieux, la vôtre terre. Mais vers le bas, on doit construire les rizières des hommes. À dater d'aujourd'hui, et il va faire un rite donc, pour les dieux. La distinction entre nature et culture n'est plus à la mode chez les anthropologues. Il me semble qu'elle l'était dans le milieu des lettrés du 8e siècle, ce que nous ont laissé ces premiers textes. Les dieux sauvages sont comme les barbares, ils doivent accepter d'être soumis à l'ordre impérial. C'est l'expression que l'on retrouve dans le Fudoki de Hitachi, Fuka. Le fou, c'est Kaze, et Ka, c'est Bakedu. Qui, d'après les commentateurs, le terme, je ne l'ai pas trouvé tel quel dans les dictionnaires, mais comme le fou peut avoir le sens de Kyoka ou bien Oshie, et donc les commentateurs glossent ce terme par Kuroka, c'est-à-dire soumis à l'ordre impérial. Donc dans ce Hitachi Fudoki, il y a encore des kabis qui ne veulent pas comprendre que les hommes ont besoin d'avoir un étang. Et donc on a construit un étang et les dieux, les yatsu, sont des dieux serpents, continuent à se rassembler au bord de l'étang. Et Malo donc, éleva la voix et fit entendre sa colère. Si j'ai fait aménager cet étang, c'est pour le bien du peuple. D'où viennent donc ces dieux ? Qui sont donc ces dieux qui ne se soumettent pas à l'ordre ou à l'œuvre civilisatrice? Il ordonna aux paysans de la corvée tout ce qui se voit, poissons, bestioles, etc., sans crainte et sans hésitation, tuer tout. Il avait à peine fini de parler que les serpents maléfiques s'enfuirent, se cacher. Si vous regardez le texte, j'ai traduit par serpents maléfiques les deux kanji, Shin et Jaku, donc on pourrait dire les serpents divins. Dans le contexte, oui, on pourrait garder divin, mais enfin. Le parallèle entre les dieux sauvages et barbares insoumis est présenté clairement dans les paroles mises dans la bouche de l'empereur Keiko quand il va envoyer son fils Yamato Tokaido pour pacifier les régions de l'Est. C'est le texte 9. J'ai appris que les barbares de l'Est avaient l'esprit violent. Ils ont pour principe de violer les règles. Ils n'ont pas de chef de village, ils n'ont pas de responsable de bourg. Chacun empiète sur les limites des autres. De plus, ils se volent entre eux. De mauvais dieux sont dans les montagnes. Et là, il y a le caractère oni qui apparaît. Des oni, ou bien des mauvais dieux, des dieux malveillants, sont dans les landes. Ils barrent les voies, ils ferment les chemins, ils font souvent souffrir les hommes. C'est donc Alabu Kami. Dieux sauvages sont des dieux naturellement mauvais, qu'il faut soumettre, qu'il faut fixer, civiliser. Ce ne sont pas de grands dieux. Ils sont dans l'environnement dans le même environnement que les hommes, mais un peu en dehors. Ils ne sont pas au cœur de la société humaine. Ce qui me permet de passer au deuxième partie, donc sur Alakino Miya. Or, avec la mort, nous allons aborder maintenant le cœur de l'existence humaine. L'un des enseignements du récit du Kojiki est que l'homme se caractérise par des limites. Il ne peut plus monter dans la haute plaine céleste. Il ne peut pas non plus se rendre dans le pays du dieu de la mer. De plus, il est destiné à mourir. Ce destin mortel se noue dans la naissance du feu, Kagutsuchi, cette naissance entraîne la mort de sa mère, la déesse Izanami. Juste après sa mort, mais ça vous connaissez bien l'histoire, je pense, son corps expulse les dieux du métal, les dieux de l'argile, les dieux de la croissance, éléments indispensables à la société humaine. Ces éléments qui ne deviennent efficaces que par l'intermédiaire du feu. Ce feu a été domestiqué de façon assez rude par son père, puisqu'il l'a coupé en morceaux. Ensuite, Izanami, ça je reprends des sentiers que vous connaissez, doit se rendre au pays de Yomi, c'est l'endroit où la mort est active, pourrait-on dire, où le processus de transformation de la défunte est en cours. Ce processus est illustré par le grouillement des vers dans le cadavre, sur le cadavre. Le texte est très connu, donc je passe. Le suite aussi, je vais... Bon, il ne faut pas que je termine quand même trop tôt. Hein. La scène se passe donc dans un bâtiment que le Kojiki nomme simplement tonneau, pavillon. Cependant, une variante du Nihonshoki parle de l'endroit du Mogali. C'est le texte 11. Il se rendit à l'endroit du Mogali. Enfin, la citation est d'une clarté assez extraordinaire. Ce bâtiment de Mogali abritait le corps donc, avant l'illumination. Le Nihonshoki donne la lecture Mogali, mais c'est bien le seul texte à donner cette lecture Mogali. Car dans le Kojiki ou dans le Manyosho, ce même endroit est désigné par les termes de Alaki no Miya. Et vous avez donc une citation du Manyosho à propos de... la mort du prince Nagaya. Le prince Nagaya a été soupçonné de complot et poussé à se suicider. Et donc ce poème est une sorte de consolation pour la mort de ce prince. La traduction de Cifer de ce poème laisse un peu songeur puisqu'il dit, là, ça commence bien, mais « De souverain aux ordres déférents, encore que ne fût l'heure de l'ultime demeure, dans les nues, il s'est caché. » Et l'ultime demeure, ce n'est pas le Mogali, donc là, il y a un petit problème. L'important, c'est que Alaki no Miya, on a le même, vous avez vu dans le poème du Banyoshu, ce Ala de Alabudo. Ah, wow. Oui. Je vais trucher un petit peu, et passer à l'emplacement qui me permet de faire la liaison, c'est-à-dire qu'à la suite des purifications de Izanaki, il donne naissance à trois divinités, Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo. La plupart des commentateurs disent que c'est très bien, puisque des deux yeux, donc l'œil gauche pour Amaterasu et l'œil droit pour Tsukuyomi, les deux yeux qui sont des porteurs de lumière correspondent à des astres, ça va très bien. Pour Susanoo, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Et même Motoli dit aussi, on a pris Susanoo et le nez, c'est parce que le nez est plus sale que les yeux. Mais si on y réfléchit bien, il se rince l'œil, enfin c'est une drôle d'expression. Mais Izanaki se lave l'œil, c'est-à-dire son œil est sale, il est à la châssis. Et donc, à proprement parler, Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo sont nés de choses sales. Simplement, pour Susanoo, c'est un peu plus sale. La morve est plus sale que la châssis. Dans ces trois personnages, Amaterasu est du côté de la lumière, pas de problème. Sauf que quand elle se cache, c'est la catastrophe. Mais le coupable, vous savez, c'est Susanoo. Ce qui me permet de passer à Susanoo l'ambigu. Sur la personnalité de Susanoo, vous avez l'ouvrage de Saito Hideki, je ne reviens pas là-dessus, mais il s'intéresse surtout au Susanoo médiéval. Ça commence donc par un personnage qui est minable, enfin faible, chétif, aussi chétif que Hiruko. Après, il déclenche des catastrophes quand il monte au ciel. Il déclenche la catastrophe en forçant Amaterasu à se cacher dans la caverne céleste. Et dans les deux cas, les expressions qui reviennent, c'est les textes donc, 15 et 16. vous avez les mêmes expressions que celles qui décrivent la haute plaine, la plaine céleste, non, ah, la plaine de réseau, la plaine de roseau, c'est-à-dire les dieux qui bourdonnent comme les mouches. Simplement, dans le cas de la catastrophe conduite par Susano, on rajoute qu'il y a des wazawai qui sont là. Mais je pense que dans le chaos de la plaine des roseaux, les wazawai étaient présents aussi. Quand Susano est chassé, il commet un autre meurtre. Enfin, je passe parce que ça m'intéresse. Et cet autre meurtre n'est jamais qualifié de crime. Ça, c'est vraiment scandaleux pour la pauvre Ogetsuhime, parce qu'elle se fait tuer, et finalement, on trouve que c'est une bonne chose, puisque de son cadavre naissent des graines, etc. Mais le texte ne signale pas que c'est un crime. Oui. La dernière apparition, non, l'avant-dernière, l'épisode le plus connu, c'est donc la soumission du... Yamata no Orochi. Lors de cette soumission, il coupe les sept, non, huit queues du dragon, de cette bête bizarre, et il trouve une épée. Ce qui permet cette épée, vous savez, c'est Kusanagi no Tsurugi, c'est l'épée qui va être finalement donnée à Yamato Takeru no Mikoto. Et le lien entre Yamato Takeru no Mikoto ne repose pas uniquement sur l'épée, mais le rapprochement de leur caractère. Sauvage est aussi souligné par beaucoup d'auteurs. Et quand l'empereur Keiko envoie Yamato Takeru no Mikoto au loin, c'est parce que Yamato Takeru a un araki kokoro, il a un cœur sauvage. Je disons une. Oui.
On attend les premières grenades. Hein.
Une des conclusions possibles, c'est que quand Susano descend en Izumo, on dit ça, il descend et puis voilà, il fait son rôle dans la mythologie d'Izumo. Mais je crois qu'on pourrait très bien le montrer comme le premier pacificateur de la plaine de roseaux. Puisqu'il tue un être malfaisant comme le Yamata no Orochi. La conclusion de la conclusion que je n'avais pas préparée, mais c'est un des textes que Bernard Franck avait retenu, puisque c'est un des seuls textes où. On est presque sûr que c'est quelque chose qui ressemble à un oni, mais pourtant il reste un doute. Ce sont les textes, dans le texte 25, tout à la fin, c'est le problème de la mort de Saïme Tendo. On n'est pas très loin de l'époque d'Alain Rocher. Donc, c'est une impératrice qui a fait couper des arbres pour construire des arbres d'un. Sanctuaire Shinto, d'un sanctuaire de Kami, pour construire son palais. Et donc, ça lui porte malheur, puisque finalement, on a l'impression que c'est bien ça, le Tatali. Hein, elle meurt très, très vite après. Et le fin du fin, ou de la fin de la fin, c'est donc la dernière partie de la citation. Le prince héritier conduisit le deuil de l'impératrice et son retourna jusqu'au palais de Iwase. Ce soir-là, il y avait un Oni. Au sommet de la montagne d'Asakura, il portait un grand chapeau et regardait le dispositif funéraire. Tous trouvèrent cela inquiétant. La lecture Oni n'est pas du tout sûre, puisque le Nihonshoki n'a pas de lecture. Il est possible que, puisque dans d'autres cas, on peut lire mono, finalement, il est possible, et Bernard Franck suggérait aussi cette lecture mono. Mais ce mono, que ce soit un mono, un Oni ou autre chose, ça n'en change pas grand-chose. Mais qui est-ce ? On a le choix entre l'impératrice qui est morte de mauvaise mort, on pourrait dire. Ça serait un petit peu bizarre qu'elle regarde ses propres funérailles. On pourrait imaginer aussi que c'est le dieu Kurusé qui vient voir si le travail a bien été fait. Et moi, j'irais plutôt vers là. C'est-à-dire que les dieux sont, même les grands dieux, sont en général bienveillants, mais il ne faut pas marcher sur leurs pieds. Merci beaucoup.
Ok, ということで、今日は本当にありがとうございました。 Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je suis désolé de cette fin un peu rapide à cause de moi. Ma faute. Et demain, je vous remercie. Merci beaucoup.